On va à présent donner la parole à nos invités du jour pour décrypter cette espèce sur cette question. Donc, a-t-on les ados qu'on mérite ? On va quand même se poser cette question. On va en parler avec vous, docteur Arnaud Fersdorf. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes pédiatre réanimateur et l'auteur du livre « Vous parents » qui est paru donc aux éditions Attier Parents. Avec nous aujourd'hui aussi, j'accueille Clémence Prompty. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes psychologue clinicienne et cofondatrice du cabinet Kids et Family. Docteur Fersdorf, vous avez décidé de centrer votre livre non pas sur les questionnements des ados, mais sur ceux des parents. C'est vrai qu'on se pose des tas de questions quand on est parent d'ados, c'est notre sujet aujourd'hui. Lesquelles reviennent le plus souvent dans votre cabinet, en tout cas celles venant des parents ?
Alors c'est vrai que les questions, j'ai presque envie de dire qu'on doit les gérer déjà quand ils sont nouveau-nés et nourrissons. Mmh. On doit leur apprendre à s'autonomiser très vite pour prendre confiance, pour que l'adolescence se passe bien. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais c'est vrai que les questions des ados, elles sont multiples et surtout, ils ont besoin de leur jardin secret. Et ils n'ont surtout pas besoin de savoir comment leurs parents ont vécu leur propre adolescence. Ça, il faut oublier.
Ah oui ? On ne peut pas partager ça
non.
avec eux. D'accord.
Sauf s'il y a une demande de leur part.
Okay.
Ou alors ils vont être gentils, ils vont écouter. Il faut vraiment que ça tombe pile poil au bon moment. C'est très compliqué. Ils sont uniques et ils ont tout à vous apprendre. En tous les cas, c'est ce qu'ils pensent.
D'accord, donc on ne commence pas à leur faire la leçon, moi à ton âge, tout ça.
Comme ci, comme ça.
Même s'ils inventent le fil à couper le beurre, on doit se pâmer.
Ouais, on va s'y efforcer, docteur. Clémence Prompty, vous venez vous-même en aide aux parents d'ados dans votre cabinet. Vous avez beaucoup de parents désemparés ou qui se sentent peut-être un peu perdus face à leur ado. Ça revient souvent à cette période de l'adolescence plus qu'à une autre. Les parents ont besoin d'aide, vraiment ?
Alors non, malheureusement, je rejoins le docteur Sorsdorf, ça commence tout petit les ennuis et ouais. Effectivement par contre c'est sûr que l'adolescence ça secoue particulièrement parce qu'ils vont chercher des limites au niveau de leur sécurité, au niveau de la séduction, au niveau du rejet, de la loi, enfin donc là on touche à des problèmes qui évidemment nous éloignent des petits enfants comme on dit, petits enfants, petits problèmes.
Ah bah voilà, c'était cette phrase que je cherchais, donc elle est vraie cette phrase.
Je le crains.
Ouais, c'est plus grave le cannabis, je pense, que des problèmes de l'ego quoi, hein, ouais, clairement. Clémence, est-ce que c'est normal que nos ados justement nous provoquent, on dirait qu'ils cherchent certains vraiment tout le temps le conflit. Pour vous c'est plutôt un bon signe je crois, un enfant qui fait une crise d'ado ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors je sais pas si on se mettrait tous d'accord sur la définition de la crise d'ado, parce que ça a une connotation quand même assez négative. On parle d'une forme d'individuation. En tout cas, c'est sûr qu'ils ont besoin de se chercher et donc de se différencier de nous. Parfois, ça passe par un rejet total. Nos opinions politiques, nos habits, même la façon dont on va cuisiner, tout devient nul et stupide et ils feront mieux que nous, et on leur souhaite. Mais en fait, quand même, ils ont beaucoup besoin de nous. Ils ont besoin de faire leurs expériences en secret et ils ont besoin de nous les rapporter, comme un petit oiseau qui s'en va et qui revient et qui dit « voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vécu, j'ai été triste, j'ai souffert ». Donc il faut quand même garder un lien, parce que c'est quand même important pour eux.
Alors docteur Fersdorf, vous dites que les conflits entre parents et les ados sont normaux, voire nécessaires. Vous citez d'ailleurs Françoise Dolto en disant qu'il faut, je cite, « qu'ils plaquent leurs parents ». C'est dur quand même, hein, parce que je vous rappelle qu'on les a amenés sains et saufs jusque-là, donc il faut qu'on accepte de se faire plaquer là comme des vieilles chaussettes.
Vous les avez amenés sains et saufs, mais ils vous ont aussi amenés sains et saufs.
Oui. On l'oublie,
c'est
ça parfois.
Hein. Et on ne doit pas l'oublier. Mmh. Et en fait, on n'est pas propriétaire de ses enfants. Et quand moi, j'examine un bébé qui vient de naître à la maternité, vous allez rigoler, mais je suis déjà en train d'expliquer aux jeunes parents la meilleure chose que vous avez à faire, et, ça, et vous vous en souviendrez l'adolescence, c'est de lui apprendre à s'autonomiser.
À deux mois, là, sur votre table, vous leur dites
trois,
ça ?
À trois jours de vie.
Ah oui ?
Déjà, le mettre sur le ventre, laisser les bras bouger. Il y a plein de choses à faire. Et si on prend le bon pli dès le début, ça va simplifier un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème à l'adolescence, non. Mais il y a déjà pas mal de choses qui se passent.
Donc vous voulez dire que le bébé que l'on éduque, entre guillemets, deviendra l'ado de demain, et c'est vraiment le même petit être qui, en fonction de l'éducation...
Complètement. Bon, il y a une phrase que j'aime bien. C'est d'un poète anglais dont j'ai un peu oublié le nom. C'est l'enfant est le père de l'adulte qu'il sera.
Ah oui. Faites pas semblant d'avoir compris, Mélanie.
Bah si, bien sûr. Mais non, mais ce que je me disais, surtout, que j'aurais aimé avoir peut-être un pédiatre qui m'aurait dit ça dès les troisième jours, enfin dixième jours. C'est là que j'ai vu, je crois, le pédiatre la première fois. Mais c'est vrai que moi, j'avais l'impression qu'il était à moi. Il m'appartenait, ce petit être.
C'est tout le travail. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça. L'adolescence, c'est un travail qu'on doit faire aussi en tant qu'adulte. Enfin, quand je dis un travail. Et ça dépend aussi du numéro dans la fratrie. Il y en a un avec lequel ça se passera bien, un autre, ça va être compliqué. Enfin, ce qui compte, c'est le dialogue. Et puis, faire comprendre à cet ado que, pas qu'on a été ado soi-même, bien sûr, il s'en doute. S'il a envie d'entendre des épisodes, on lui
en délivrera. Non, moi, je vous assure que le mien, il croit que j'ai jamais été jeune. Hein. Ça, il me dit, non, mais toi, t'es vieille. Quoi.
Mais ils n'ont pas envie de savoir. Ouais. Ils n'ont pas envie de savoir d'où ils viennent. Ils n'ont pas envie de savoir un gramme de la sexualité de leurs parents.
Ouais.
Ils veulent tout montrer et découvrir par eux-mêmes. Alors le problème, c'est les réseaux et après, on sait la suite.
Mais parfois, ils nous posent des questions et là, on doit répondre quand même.
Il faut répondre.
Moi, j'ai eu la question, à quel âge t'as embrassé un garçon la première fois? Est-ce que je dois répondre à ça?
Ah oui. Oui. Alors évidemment, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails,
non,
c'est pas
non.
le sujet. Mais ah bon, tu veux savoir, on trouve un moment, on échange. En fait, ce que l'enfant, ce que l'ado a besoin de savoir, c'est il a besoin de se réassurer.
De savoir s'il l'a fait avant ou après sa mère, notamment pour le baiser.
Ça peut, mais pas forcément, parce que l'ado, comme vous le disiez...
Je pense que c'était ça le but de la question. Hein,
l'ado n'est pas dans une compétition avec ses parents. Par contre, l'adulte peut se sentir un peu en compétition avec son enfant. Surtout mère,
fille.
Enfin, il y a plein de choses qu'on observe et que moi je me régale entre guillemets quand j'ai des consultations avec des ados au cabinet. Parfois, je les reçois seuls pendant que le parent ou les parents attendent dans la salle d'attente, si tout le monde est d'accord. Ils me délivrent des choses qu'ils n'ont même pas délivrées à leurs parents. C'est pas toujours très simple.
Vous les répétez pas aux parents quand même?
Je le fais si j'estime que la sécurité de l'enfant est en danger. Mais si c'est secret médical, je garde ça pour moi.
Très bien, vous ne bougez pas, on revient très vite et on va poursuivre cet éclairage sur l'adolescence. Période sensible pour les jeunes, mais aussi redoutée par les parents, voire même les grands-parents. On en parlera d'ailleurs, a-t-on les ados qu'on mérite? C'est vrai qu'on peut se poser la question et on va y réfléchir ensemble dans quelques instants sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Quelle belle musique de Fatal Bazooka. Par la maman, ça peut l'histoire de nos vies. Quand on est parents d'adolescents, vous écoutez Bien fait pour vous. Votre émission Feel Good Mieux Vivre, c'est tous les matins sur Europe 1 de 11h à midi. Et aujourd'hui, on tente de se replonger un peu dans cette période critique. Enfin, parfois, ça se passe bien, heureusement. Hein. On s'intéresse à l'adolescence ce matin avec le docteur Arnaud Fersdorf, pédiatre réanimateur et la psychologue clinicienne Clémence Prompsy. Alors docteur, c'est important de garder quand même le rôle de parent rassurant et un peu parfois embêtant, j'allais dire chiant, avec nos ados. Est-ce que c'est un repère pour eux, cela? Est-ce qu'ils... Ou alors, on peut s'ajouer cool, ambiance copain, pour éviter le conflit?
Alors, être copain avec ses enfants, je ne conseille pas trop. On peut. Moi, j'observe parfois des parents qui veulent être trop proches de leurs ados ou de leurs enfants. Non. C'est le jeune qui va, l'ado, qui va peut-être franchir certains pas pour associer le parent. Par contre, il faut savoir que même quand on est au plus fort d'une crise, s'il y a une crise, parce qu'il y a l'adolescence, mais maintenant il y a la nouveauté dont on parle depuis un certain nombre d'années, c'est la pré-adolescence, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas développer
ça
ici.
Ça commence à quel âge, ça?
Ah bah ça peut commencer à 7 ans,
oh
8 ans. Ah oui, ah oui, on a beaucoup les perturbateurs
endocriniens. Je pensais à 11 ans dans ma tête, moi.
Ah oui. non, la pré-adolescence, nous pédiatres, ça nous intéresse au plus haut point, mais bon, je ne vais pas...
C'est une autre émission.
Là, c'est une autre émission. Mais ce que je dis, c'est qu'on doit toujours garder le contact. Même s'il y a un plus fort de la crise, le parent doit toujours être là.
Donc il doit toujours être parent.
L'ado doit savoir que le parent, la mère ou le père, le parent, il pourra toujours compter sur lui, même s'il est taiseux, même s'il s'enferme dans sa chambre, même s'il ne communique pas, il sait qu'il peut compter sur lui. Il faut toujours conserver le contact.
Et comment on fait pour conserver le contact? On lui dit « tu pourras toujours compter sur moi », il faut lui répéter ou...
Oui, ou c'est pas de manière exagérée, toutes les 5 minutes, en disant « ça va, tu sais que tu peux compter sur moi », c'est assez relou, quoi. Il y a marre pour ça, d'ailleurs, qu'il fuit le petit-déj. Ouais. Parce que le petit-déj, ça les saoule payer la tronche du papa-maman qui va dire « alors, il faut le laisser venir, finalement
». Clémence, vous pensez quoi, vous, de la maman ou du papa cool, voire trop cool, hein, pour avoir essayé, honnêtement, le week-end dernier, lors de l'anniversaire de mon 13 ans, j'ai voulu faire un peu la Jones devant ses amis, j'ai l'impression que ça l'a beaucoup embarrassé, voire ça a même embarrassé ses copains, en fait. Donc j'ai vite arrêté, hein, je vous rassure.
Oui, c'est sûr que je vous rejoins parfaitement. Je pense que d'être ami avec son ado, c'est peut-être une mauvaise idée puisqu'ils ont besoin de faire leurs propres expériences. Ce qui est très important pour garder lien et rester parent, comme disait Julia, c'est que quand ils viennent vers nous, on essaye de ne pas être dans le jugement et dans la morale, ce qui est très compliqué. Et c'est des techniques de communication qui peuvent s'enseigner, qui peuvent se lire. Moi, je recommande la lecture d'un livre que j'aime énormément qui s'appelle « Parler pour que son ado écoute et écouter pour que son ado parle », qui est un vieux bouquin, mais qui, je trouve, marche encore très bien. En fait, l'idée, c'est que quand on aime quelqu'un, on s'inquiète. Quand on s'inquiète, on le critique en lui disant « mais pourquoi t'as fait ça ?» Finalement, l'ado se dit « bon, bah, je n'ai aucun conseil, merci beaucoup, salut !» Et donc, on se retrouve avec une porte fermée et un ado qui va préférer chercher des conseils auprès de ses copains ou sur les réseaux, ce qui est une catastrophe. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le débat sur les émotions, ce qu'on a pu vivre, tu t'es senti triste, humilié, et ensuite de proposer son aide. Est-ce que tu veux que je t'aide à intervenir? Est-ce que tu as des idées de solutions? Voilà.
Docteur, vous abordez la question de la chambre d'ado. Non, mais ça, c'est vrai que c'est une sacrée question. Une zone,
la tanière.
La tanière, une zone interdite aux parents souvent. Faut-il vraiment les laisser tranquilles dans leur intimité, même si parfois on meurt d'envie de faire le ménage ou tout simplement de voir ce qui s'y passe? On peut craindre aussi pour leur santé.
L'hygiène, quoi. Ouais. Il y a des maladies quand même.
Non, et puis même
trop de moisissures.
Si... voilà, est-ce qu'on a... comment on fait? Moi, je sais que mon ado, par exemple, c'est porte fermée.
Vous ne rentrez plus dans la chambre de votre fils?
Non, je tape, je frappe.
Alors,
avant de rentrer.
Il faut toquer à la porte, il faut s'annoncer. Ne vous faites pas de soucis. Surtout... alors, il faut gérer aussi les écrans en amont, très en amont, parce que je vois des parents qui parfois ont démissionné à 7 ans. Déjà, le gamin, il a son smartphone dans la chambre. 7-8 ans, il faut être extrêmement prudent là-dessus. Et c'est un peu du donnant-donnant. Mais ce donnant-donnant, il évolue avec le temps. Tous les 6 mois, l'ado, il a changé. Et on va donner un peu plus. Et qu'est-ce que tu me donnes, toi? Qu'est-ce que tu m'apportes? Mais la chambre, c'est une tanière. C'est un lieu qu'il faut respecter. Il a besoin de ça aussi.
Moi, je connais des parents qui interdisent de fermer la porte à leurs ados en disant « Après, tout est chez moi, encore que je sache, donc tu laisses ouvert, j'ai le droit de rentrer comme je veux. »
L'interdit, on peut le faire, mais on le met en gros dans sa tête. Mais on ne le dit pas comme ça à l'ado. Oui, on a tous envie que les choses se passent bien. On craint les relations amicales. Oui, mais celui-là, il n'est pas pour toi. Il le shit, le machin qu'on va trouver au fond de ton sac, les odeurs, machin. Mais il faut lui faire confiance, en fait, à l'adolescent. Mais la confiance, elle ne vient pas à l'adolescence. Il faut l'avoir déjà fait en amont. C'est très important, ça se prépare en amont.
Et puis, il y a une autre pièce cruciale pour l'intimité aussi, c'est la salle de bain. Clémence, est-ce que vous avez des conseils concernant ce lieu parfois squatté longtemps, très longtemps par les ados?
Alors, c'est vrai que moi, je suis à fond pour repérer les conflits qui sont trop quotidiens. Quand on se dispute 3 fois avec son ado sur n'importe quel détail, que ce soit les devoirs, les amis, les horaires, les consommations d'écran, on se pose et à distance du conflit. Donc, on n'hésite pas à se faire aider. C'est vrai que c'est des choses qu'on accompagne énormément, nous, en thérapie familiale.
On peut aller en cabinet pour parler du problème de la salle de bain, on a le droit.
Ouais, alors généralement, il n'est que symptôme.
Ouais,
voilà. Je veux dire, quand on devient dingue avec une histoire de salle de bain, c'est qu'il y a 2-3 trucs qui vont déraper aussi ailleurs.
C'est
en tout cas, à distance des disputes, on se pose et on se dit « Ok, comment on fait ?» Voilà, c'est la rentrée scolaire de septembre, de janvier, peu importe. On refait le point et on se met d'accord sur des choses qui seront... on sera intransigeant en tout cas.
Docteur Fersdorf, on a une question d'Emmanuel sur Insta qui dit « Jusqu'à quel âge on leur prend une babysitter d'ailleurs? Ma fille a 11 ans, donc pré-ado. Je la trouve quand même très mûre. Puis-je la laisser seule le soir de temps en temps quand on sort dîner avec mon mari ?» Qu'en pensez-vous?
Alors,
11 ans.
C'est très bien de parler du couple, hein, parce qu'on n'en a pas parlé là.
C'est vrai.
Et le couple, finalement, pourquoi? Parce qu'il n'est pas forcément du même avis vis-à-vis de l'ado. Et c'est souvent une source de conflit. Alors déjà, il y a le nouveau-né, le sommeil et tous les nuits, et ça c'est vraiment compliqué à gérer. Mais pour l'ado, parfois, le papa, la maman, enfin les deux parents ne sont pas forcément d'accord.
C'est souvent à cette période qu'on n'est pas d'accord, d'ailleurs, en fonction de ce qu'on a vécu aussi soi-même.
Parce que parfois, elle est trop jeune, il faut qu'elle rentre à 19h.
Ils veulent inviter une fille à dormir ou ce genre de choses.
Mais bien sûr, il faut être dans l'ouverture. Il faut aussi que l'ado donne des arguments. Il faut qu'il se sente écouté. Mais pas derrière, comme on le disait tout à l'heure, « Ah ben tu sais, moi, à ton âge, mais j'en ai rien à battre. »
Mais c'est ce qu'ils vont répondre,
c'est sûr. C'était le Moyen-Âge.
Oui, mais alors Clément...
Mais, babysitter ou pas alors à 11 ans?
Alors, 11 ans, ça dépend. Alors, on est tous inégaux.
Ouais.
Ça dépend de la maturité de l'enfant. Ça dépend où vont les parents. C'est pour aller au restaurant qui est dans la rue et pas très loin et que l'enfant sait bien manipuler un téléphone. On peut, bien sûr. Il n'y a pas de mise en danger. Je crois que, voilà, il faut... faire en fonction de la situation.
Clément, j'ai l'impression quand même que la parole est plus libre aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on parle un peu plus de sexe, de drogue avec nos ados. C'est le cas? Et est-ce que c'est une bonne idée d'aborder ces sujets?
Alors, je pense que si on peut passer en amont et si on peut rentrer dans le cerveau de nos enfants avant Internet, c'est vraiment super. Hein. Je crois qu'on parle de 9 enfants sur 10 exposés à la pornographie avant la fin de la 6e.
Waouh.
On est content avec ça. Si ça peut d'ailleurs freiner l'utilisation des portables et d'Internet, alors j'avoue que si on peut reculer. Et si parler, c'est quand même beaucoup mieux.
Dès que alors, possible. En amont, mais quand on voit que la sexualité se développe ou qu'on voit qu'il y a des copains, par exemple, qui fument du cannabis, tout ça, on y va franco, on parle de ces sujets? C'est pas trop tard?
Oui, de toute façon, ils feront leurs expériences dans notre dos ou en nous les racontant. C'est compliqué de ne rien dire s'ils nous racontent qu'un copain a fait une overdose, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sur fumer du shit. Ça va très très vite parfois et ça va très très loin. Donc, ils ont besoin de sentir quand même que si les pompiers débarquent, c'est bien de pouvoir appeler son parent. Et bien sûr, ce sera normal quand même. Vous disiez comment rester parent. Bien sûr qu'on est obligé de poser des contraintes et même de dire à l'ado, en fait, t'estimes quoi comme punition logique? Comment penses-tu qu'on puisse te protéger? Voilà, qu'est-ce qui te semble juste?
Docteur, sur cette question-là, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je rebondis sur la sexualité. J'ai eu un cas très récemment, un ado de 12 ans, vraiment ado, qui à un moment donné m'a dit qu'il avait une question à me poser. Et il n'osait pas se tourner vers sa mère qui était à sa gauche. Et c'est la mère, spontanément, qui a dit « Je te laisse, je vais dans la salle d'attente ». Elle n'était pas au courant.
Ah oui.
Et le gamin m'a parlé, il était taclé sur les réseaux. de petits zizi.
Oh là là.
Vous vous rendez compte ?
C'est du harcèlement.
Et le gars, moi j'ai trouvé ça extraordinaire qu'à 12 ans, il puisse, devant son pédiatre, alors évidemment je le suis depuis la naissance, il y a une confiance, mais tous ne sont pas comme ça. Il m'a posé cette question, il m'a dit « Docteur, pourquoi est-ce qu'on dit que j'ai un petit zizi ?» Alors, je ne vais pas développer.
Vous l'avez rassuré,
il a
j'imagine.
Parlé, et le fait de parler, libérer la parole, c'est hyper important. Après, on peut travailler.
Ça veut dire quoi, docteur ? Que si nous, les parents, on n'arrive plus à parler de tout ça avec nos enfants, il ne faut pas hésiter à aller voir justement un pédiatre, par exemple ?
Alors, oui, je dirais qu'on n'est pas là que pour soigner les pyélonéphrites ou faire des diagnostics rares. On est aussi là pour prendre en compte la globalité de l'enfant. S'il a des troubles du sommeil, d'agressivité ou autre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. L'école, les parents ne le voient pas forcément. Donc, on va lui donner le micro, mais ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des parents qui sont là. Quand on le peut, on l'oriente vers des psychologues ou des thérapeutes, mais il faut qu'il adhère. C'est pas toujours simple.
Eh bien, merci. On reste ensemble. On va poursuivre cette exploration de l'adolescence. Bon, bien sûr, davantage de notre côté à nous, les parents, car je suis pas sûre que les ados nous écoutent. Mais en tout cas, on tente ce matin, nous, de vous aider à apprivoiser l'animal, à le guider vers la vie d'adulte, sans trop de portes qui claquent. Donc, restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous sur Europe 1, on est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez. On s'intéresse ce matin à l'adolescence, comment limiter les conflits et les guider nos ados vers l'âge adulte sans les saouler non plus. On en parle avec pédagogie, avec nos deux invités, le docteur Arnaud Fersdorf, pédiatre réanimateur, et la psychologue clinicienne Clémence Prompsy. Docteur Fersdorf, votre avis sur le rôle des grands-parents ? Parce que c'est un sujet que j'ai envie d'aborder par rapport à l'adolescence de nos enfants. Je trouve que c'est parfois l'âge où justement... Alors, nos ados, parfois, veulent même plus aller les voir, leurs grands-parents, ça c'est triste pour eux. Mais je trouve que c'est l'époque où les parents, nos parents, ont de plus en plus envie de se mêler aussi de l'éducation de nos enfants. Il y a pas mal de grands-parents qui vont dire « moi, je faisais pas comme ça avec toi ». Enfin, c'est très difficile à recevoir aussi en tant que parents, ce genre de critiques.
On est en plein dans la psychogénéalogie familiale. C'est évident que pourquoi on fait un enfant ? Parfois, rien que pour faire plaisir à ses parents, pour renouveler quelque chose, reproduire quelque chose. Donc, il faut se poser des questions aussi sur soi-même. Mais le grand-parent, il a sa place. On a été dans une période, il n'y a pas si longtemps, où le grand-parent était un peu repoussé. On n'habitait pas la même ville, etc., etc. Et là, avec la Covid, il y a des choses aussi qui sont passées, que je ne vais pas développer ici, mais où le grand-parent retrouve un peu une place. Je crois que chacun doit y mettre un peu du sien. Il faut savoir aussi un peu lâcher la grappe à son enfant. Je le confie à mes grands-parents, je suis en confiance. C'est vrai que, tiens, il a mangé des navets à la maison, chez les grands-parents, et à la maison, il n'en mange pas.
Ça, je l'ai tout le temps. Chez moi, il mange des légumes, pourquoi toi, tu n'y arrives pas ?
On a envie d'appuyer sur le bouton bombe atomique, là. On se dit, je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père.
Mais pourquoi il mange des légumes chez les grands-parents
mais
et pas chez moi ?
Parce que l'affect est différent. Et cette notion d'affect, elle est considérable parce qu'elle introduit une notion de jalousie, de compétition, de doudou. La maman devient un doudou. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Ça devient un langage qui n'est pas le même chez les grands-parents. Il a besoin de ça. L'enfant a besoin des grands-parents pour se structurer.
Alors Clémence, vous parlez de TOP, trouble de l'opposition avec provocation, c'est bien ça. Je crois que ça se fait dès la préadolescence. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit ?
Oui, alors c'est plutôt chez les 6-10 ans qu'on voit le top commencer à poser problème. Et on sait déjà qu'un top va être très compliqué à l'adolescence parce que la recherche de limites sur quelqu'un qui ne supporte plus aucune autorité... du tout, ça devient très compliqué et on touche à des conduites à risque qui peuvent être assez élevées et angoissantes pour les parents.
Donc vous, quand vous avez quelqu'un, un petit gamin en cabinet à 6-10 ans qui fait des tops régulièrement, vous vous dites que ça va être un ado difficile ?
Non, d'abord je suis pleine d'espoir et je fais plein de compliments à tout le monde pour qu'on aille dans le bon sens et surtout on a créé un groupe pour prendre en charge les enfants de 6 à 10 et je dois dire qu'on a une liste d'attente très longue pour ce groupe, parce qu'il est super pour les enfants, c'est assez rigolo. Et l'idée, c'est de pouvoir resupporter l'autorité. L'autorité, elle est rassurante, en fait. Je veux dire, si on fait tout par brutalité ou par imposition, ne serait-ce que prendre ta douche, à 14 ans, quand on n'est plus là, ils ne la prennent plus. Je veux dire, les choses doivent aussi s'internaliser. Le policier, il doit être à l'intérieur de l'enfant, parce que tout ça, c'est pour lui qu'on le fait. C'est pas contre lui, un parent, l'éducation, c'est pas contre son enfant. Donc c'est vrai que c'est difficile et que c'est important d'accompagner les émotions jusqu'à 3 ans, et puis de 3 à 6, de commencer à accompagner les frustrations et les règles et les limites.
Et vous constatez dans votre cabinet qu'il y a plus d'ados ou de filles ? C'est plus difficile pour qui, l'adolescence ?
Alors, c'est une vraie bonne question. Je dirais qu'on a plus de filles dans des symptômes très brûlants d'anorexie, de scarification, etc. Les garçons sont plus taiseux.
Comme à l'âge adulte, hein, finalement. Je crois que on sait, les hommes adultes ont plus de difficultés à consulter que les femmes. Docteur Fersdorf, vous confirmez, hein, c'est plus difficile avec les garçons.
Le garçon est plus taiseux, c'est pour ça qu'il faut le connaître. C'est pour ça qu'un suivi.
C'est plus risqué avec les garçons, alors.
Ah oui,
si on perd le contact.
Va passer à côté de l'autre. Un exemple, le diagnostic des TSA. Les troubles du spectre autistique ou des TND, les troubles du neurodéveloppement. On sait que ça touche plus les garçons, trois quarts à peu près, que les filles. Mais là, c'est le contraire. C'est parce que justement, les filles contournent et on peut passer à côté du diagnostic. Ben, chez les garçons, c'est la même chose. Il faut savoir, non pas lui donner le micro, mais l'écouter au bon moment et trouver des temps. Soit en tant que thérapeute ou médecin, soit en tant que parent.
Justement, en tant que parent, Dr Fersdorf, si on repense à son adolescence, on sait que parfois on a nous-mêmes fait des bêtises, qu'on a eu une adolescence très difficile. C'est fréquent que, et donc on va s'inquiéter peut-être d'autant plus que nos enfants reproduisent la même chose, c'est fréquent d'ailleurs que ça se poursuive de génération en génération, on est des ados difficiles de parents en enfants, ainsi de suite.
Alors, je parlais de la psychogénéalogie familiale. Oui, ça dépend. C'est vrai que si on est deux parents à être un peu TDAH, avec ou sans hyperactivité, ou si on est très curieux, si on a une hypersensibilité, quelque part, ça se retransmet un peu quelque part. On va retrouver un peu chez l'un ou l'autre enfant.
Vous parliez de l'anorexie tout à l'heure. En micro, pour le coup, les mamans qui ont été anorexiques, comment elles se comportent en général avec leur ado?
C'est un exemple typique. Ouais. Je rencontre un certain nombre de mamans, de jeunes mamans qui ont fait de l'anorexie quand elles étaient ados, qui ne m'en parlent pas dès le départ, mais ça vient petit à petit, parce que je leur tends là aussi le micro, parce que je vois qu'il y a des questionnements sur l'alimentation, la diversification, elles veulent trop bien faire, etc. etc. Et puis à un moment donné, ça fuse, ça sort. Vous savez, j'ai pas envie que se passe la même chose que moi, ce que j'ai vécu avec mes parents, par exemple. Et là, on parle, là, on démine, et c'est vrai que plus on veut faire différemment, plus on risque de se tromper aussi. Oui. Donc il faut lâcher un peu prise.
Clémence, est-ce qu'il faut faire confiance à son ado? Je veux dire, par exemple, s'il ne rentre pas tout de suite après le lycée, on ne s'inquiète pas systématiquement, comment on réagit?
C'est une vraie bonne question, la confiance. Je pense que la confiance, c'est un pacte, un peu comme la porte de la salle de bain et le linge sale et tout ça. On ne peut pas trahir la confiance trop souvent, sinon évidemment on la perd, et on la perd plus vite qu'on ne la gagne et qu'on ne la construit. Moi, je voudrais quand même parler d'une note positive, parce que je trouve que notre discours est un peu angoissant. C'est vrai que c'est angoissant l'adolescence, mais que ce soit de la part de nos grands-parents, des parents ou des ados, en fait, je crois que tout le monde a besoin de compliments et de confiance. Et finalement, presque, soyons manipulateurs. Je me demande si on n'est pas plus astucieux en disant « j'ai tellement confiance en toi ». Et là, l'enfant se dit « oh bah flûte, je vais quand même pas le décevoir s'il savait, le pauvre ». Plutôt que « de toute façon, tu ne fais que n'importe quoi et dès qu'on a le dos tourné, tu fais n'importe quoi ».
C'est pas ce qu'on appelle la psychologie inversée. On n'aurait pas tendance à dire le contraire de ce qu'on pense à son ado pour avoir un peu de...
On dit surtout ce qu'on voudrait provoquer. Et je pense que de provoquer « j'ai confiance en toi et je sais que tu fais de ton mieux et je sais que s'il y a un problème, tu viendras m'en parler ».
Docteur Fersdorf, cette technique avec l'enfant du compliment.
Oui, mais alors le compliment, et j'irais même au-delà, c'est que au fond l'ado, c'est la difficulté, c'est de quitter l'enfance pour entrer dans un monde d'adulte c'est parfois un peu bof pour lui. Et du coup, ce qui est important, c'est que il ait l'impression, lui, d'apporter quelque chose à ses parents, d'être écouté par ses parents, quelque chose de nouveau, même si les parents connaissent déjà. Et c'est pour ça que la pire des choses, c'est en tant que parent, de dire « ah oui, tiens, ça me rappelle, tu sais, moi, on coupe le dialogue ». Ce qui compte, c'est ce que lui va déposer.
Donc il faut qu'on s'intéresse à TikTok, à tout ça.
Sans faire celui qui connaît.
Ouais. De toute façon, j'y connais rien, donc je ne pourrais pas faire semblant. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on a donné pas mal de clés ce matin pour que l'adolescence de nos jeunes se passe de la façon la moins difficile possible. Il y aura sûrement des conflits, mais ça fait partie de ce défi. Et on va les amener donc à l'âge adulte. On en parle justement dans votre livre, « Vous, parents », je le rappelle, Dr Fersdorf, « Vous, parents » aux éditions Atier Parents.